Fatalitas, chapitre 5. Un bon coup de chéri Bibi. Le lendemain, chez Monsieur de Saint-Yne, il y avait conciliabule entre Harigonde, le bêcheur, et Fric-Frac. Après la fameuse échauffourée de la vieille ville et la poursuite de la police à laquelle ils avaient échappé par miracle, ils étaient décidés à rester momentanément tranquilles. Du reste, Fric-Frac ne pouvait plus se montrer, et la boutique du père Toulouse était privée de son propriétaire pour longtemps. Enfin, ils espéraient bien que, voyant le danger, Pallas ne tarderait pas à leur faire de nouvelles offres. La ficelle, qui était toujours en fonction, assistait de loin ou de près à ses pourparlers, s'efforçant d'en perdre le moins possible. Vers 4 heures du soir, on sonna à la porte du jardin qui donnait sur les derrières de la petite villa, du côté du quartier de la Californie. Aussitôt, les deux molosses que l'on détachait toujours à la tombée du soir se mirent à grogner terriblement. Ce fut Harigonde qui alla ouvrir lui-même le petit Judas pratiqué dans le volet de fer. Un homme était là, qu'il ne reconnut pas. Des mèches noires tombaient en désordre sur sa face brunâtre, au méplat accentué. Un chapeau mou, dont les bords étaient baissés, jetait de l'ombre sur cette physionomie rustique et sauvage. L'homme était habillé d'un complet veston gris, aux formes lâches, aux poches béantes. « Que voulez-vous ? » demanda Harigonde. « Parlez à Monsieur de Saint-Yne, » répondit l'inconnu d'une voix très gutturale et avec un accent étrange. « Qui êtes-vous ? » « Je suis aide-jardinier chez Monsieur Didier Daumont. » Harigonde resta un instant sans répondre. Il réfléchissait. Évidemment, Pallas lui envoyait un messager, mais il ne l'attendait pas si vite, et il avait toutes les raisons possibles de se méfier. « Une seconde, » fit-il. Aussitôt prévenu, le bêcheur et Fric-Frac montrèrent une forte jubilation. « Il y vient !» s'exclama le premier. « À nous, son aubert, son argent !» glapit le second. « Patience, échambardez pas, SVP !» émit Monsieur de Saint-Yne, prudent. « M'est avis qu'il se presse beaucoup, après avoir tant renaudé. Il a vu qu'on aurait sa peau, son cœur et son honneur s'il ne mettait pas les pouces. Mets-toi à sa place, et songe à ce qu'il risque. » T'aurais déjà signé le traité de paix, conclut Fric-Frac. Gutsch là-haut, grimpe là-haut, ordonna Harigonde au bêcheur. Et veille sur les environs. Toi, Fric-Frac, reste dans la pièce à côté, prêt à te jeter sur le pente si tu aperçois quelque chose de louche. On va bien voir ce qu'il veut, cet oiseau-là. On dirait un calabret, et surtout, pas de rigolo, autant que possible. « Je n'aime pas le bruit. » Ayant ainsi distribué ses troupes, Harigonde s'en fut à l'ennemi, non sans avoir fait prévenir la ficelle de tenir l'auto fermée, prête à partir dans la seconde. Sur un signal rassurant du bêcheur qui guettait sur les toits, Harigonde ouvrit. L'homme entra. Il était calme, sans crainte. Harigonde l'avait fait passer devant lui. En pénétrant dans la salle à manger, qui avait vu sur la mer, éclairée alors d'une façon fulgurante par un commencement de soleil couchant, le visiteur ôta son chapeau. Harigonde ne put retenir un cri.
« Yo-yo !»«
Ah !» fit l'autre. « Vous me connaissez ?»«
Moi aussi !»
Le Parisien avait déjà recouvré son sang-froid. Il avait vu Yo-yo à l'œuvre dans la forêt vierge. Il savait combien il avait été dévoué à chéri Bibi, et il pensa qu'il devait l'être de même à Pallas. Les peaux-rouges sont souvent capables de ces héroïsmes désintéressés. Ils se donnent à l'un ou à l'autre, pour rien, pour le plaisir, heureux d'une caresse, comme des chiens. Ainsi Pallas, raisonnait Harigonde, avait amené Yo-Yo en France pour sa sauvegarde personnelle, et Yo-Yo était au courant de tout. Sa visite présente le laissait prévoir. « Moi aussi, je vous connais, ne dissimulait rien. Harigonde résolut de brusquer les choses. « Eh bien, fit-il, parle, c'est Monsieur Daumont qui t'envoie. »«
Non, répondit l'autre en secouant la tête et en regardant le Parisien bien en face.
« Non, j'en ai assez de celui-là. » Ces derniers mots avaient été lancés avec un accent de haine qui surprit le Parisien. De plus en plus, il se méfiait. Il se jeta dans un rocking, alluma une cigarette, se balança et fit d'un air très détaché « Pourquoi viens-tu me raconter cela à moi ?»«
Parce qu'hier, il m'a frappé et qu'il me traite comme une bête. Je suis chrétien, j'ai été baptisé. »
« Tant mieux pour toi, » ricana le Parisien.
« Tant pis pour lui, » gronda Yo-Yo. « Il m'en veut parce que j'ai mal gardé la maison de Monsieur Toulouse l'autre soir et qu'il a failli être surpris par la police. »«
Nous aussi, » continua de ricaner Harigonde. Avant tout, il ne voulait point paraître étonné devant le pot rouge de quoi que ce fût, ni surtout impressionné par sa démarche. Où Yo-Yo voulait-il en venir? Tout était là.
Tu es venu en France avec lui?
Non, c'est Chéri Bibi qui m'a envoyé ici pour lui apporter de la poudre d'or. Ma poudre.
Harigonde cessa de se balancer sur sa chaise.
Tout ce que j'ai, continuait Yo-Yo, appartient à Chéri Bibi. Mais tout ce que j'ai n'appartient pas à celui-là. Chéri Bibi m'a sauvé, moi, ma femme, mes frères. Celui-là m'a battu, comme le chien d'un autre. Qu'il crève.
En attendant, tu lui as donné ton or.
Oui, soupira l'autre. Il l'a bien fallu, je l'avais promis à Chéri Bibi.
Et il y en avait beaucoup.
Autant que la première fois, quand tu as tenté de le prendre chez le seigneur Fernandez. Rappelle-toi.
« Diable ! » ricana encore Harigonde. « Tu fais de beaux cadeaux, toi, quand tu t'y mets !»
Comme s'il était agacé ou froissé par les propos ironiques de son interlocuteur, Yo-Yo se leva, les sourcils froncés, l'œil mauvais.
« C'est assez bavardé. Veux-tu de l'or, oui ou non ? »
fit-il, les dents serrées. Harigonde comprit que c'était fini de plaisanter. L'irritation de Yo-Yo paraissait sincère, et son désir de vengeance contre Pallas aussi.
Si tu sais où est cet or, pourquoi ne le prends-tu pas toi-même?
Voilà ce qui m'étonne, Yo-Yo. Jusqu'alors, tu as été notre ennemi. Je suis bien obligé de prendre des précautions.
Tu prendras toutes les précautions qu'il te plaira, et tu auras tout l'or, quand tu voudras.
Tu me poses des questions ridicules. Tu sais bien qu'il m'est impossible, à moi, de prendre à cet homme-là une poudre d'or que j'ai promis à Chéri Bibi de lui donner. Toi, tu n'as rien promis à Chéri Bibi, comprends-tu?
Harigonde comprenait, et il en était comme ébloui. Cela encore faisait partie de cette mentalité exceptionnelle de l'Indien. L'impossibilité morale où celui-ci se déclarait de toucher à cette poudre d'or. Et il ne perdit plus son temps à discuter. Il lui fallait, au contraire, profiter de l'état d'esprit du pot rouge, au plus tôt, car le lendemain, peut-être, Yo-Yo aurait changé d'avis.
« Où est l'or ?»«
Là où je vais te conduire, ça n'est pas loin. »«
Prends bien garde à toi, Yo-Yo. Si tu me trompes, tu es mort. Au contraire, si tu es un ami sincère, tu pourras tout me demander. » Et je te vengerai de Pallas.
C'est tout ce que je te demande, déclara Yo-Yo. Le reste m'importe peu. Tu as tort de te méfier de Yo-Yo. Yo-Yo ne te quitte plus.
J'emmène mes amis. Je t'avertis encore de cela.
Emmène-les. Vous ne serez pas trop. Le sac est lourd.
10 minutes plus tard, l'auto que conduisait la ficelle emportait Harigonde, Fric-Frac, le bêcheur et Yo-Yo du côté du Cap Ferrat. Passé Villefranche, l'auto faisait un détour assez mystérieux vers la haute corniche, puis revenait vers la mer,
par un chemin de torrent. Enfin, toujours sur les indications de Yo-Yo, elle pénétrait dans une crique, toute bordée de hauts rocs qui la dissimulaient à tous les regards. Que Pallas eût choisi ce lieu désert, sauvage et quasi inabordable, à deux pas de chez lui, pour y cacher son trésor, la chose paraissait des plus naturelles. Yo-Yo expliquait à Arigonde que le sac d'or se trouvait dans une grotte, que le torrent, au moment de ses crues, balayait et recouvrait quelquefois entièrement. Il fallait prendre des précautions. Du reste, il leur montrerait le chemin. « Non, tu nous l'indiqueras, » répondit Arigonde, « et tu marcheras entre le bêcheur par devant et moi par derrière avec Fric-Frac. » Yo-Yo fit comprendre d'un geste que cela lui était indifférent. Arigonde et ses compagnons étaient armés jusqu'aux dents. Qu'avaient-ils à craindre? Ils sautèrent sur le roc. La grotte s'ouvrait devant eux. Les eaux s'y engouffraient avec un bruit sinistre. Cependant, les derniers rayons du soleil y glissaient une lumière rassurante. Le long du roc, sous la voûte de granit, des dalles naturelles, d'une largeur suffisante, côtoyait le gouffre. Yo-Yo désigna du doigt un renfoncement de la pièce à hauteur d'homme. C'est là. Sur la dalle, les trois bandits se haussèrent sur la pointe des pieds pour voir. Ils tournaient le dos au gouffre. Yo-Yo était au milieu d'eux. La ficelle était à l'entrée de la grotte. Soudain, il se passa quelque chose de fantastique. La dalle sur laquelle ils se trouvaient se souleva brusquement, et le dernier rayon de l'astre du jour éclaira une cariatide formidable. La figure farouche, les épaules du colosse de Chéri-Bibi, qui portait et rejetait le rocher le long duquel quatre hommes glissaient avec une clameur de désespoir et de suprême malédiction pour disparaître dans les eaux tourbillonnantes. Il y eut encore quelques appels du fond des eaux, puis plus rien. Un grand silence, le silence de la mort. Yo-Yo, lui, qui savait comment les choses devaient se passer, avait déjà rejoint la ficelle qui le sauva du gouffre. Quant aux autres... Et tout à coup, l'on entendit, dans cette grotte où la nuit venait d'entrer avec la mort, le rire démoniaque, l'écho terrible de la joie infernale de Chéri-Bibi, manifestation dont il payait généralement ses peines chaque fois qu'il prétendait avoir accompli une bonne action. Chéri-Bibi riait, riait. Pauvre Chéri-Bibi, il aurait été certainement moins gai s'il avait pu lire cette lettre signée de Saint-Yne qui fut apportée le soir même au comte de Gorbio chez Nina Noah. Vous apprendrez certainement demain par les journaux que Monsieur de Saint-Yne et deux de ses amis se sont noyés par accident. En ce qui me concerne, je ne suis que blessé et réfugié à bord de la goélette Tulia. Laissez croire à ma mort. Nous avons été victimes d'un complot monté par Didier Daumont. Je puis vous dire maintenant qui est cet homme. C'est un forçat en rupture de banc nommé Raoul de Saint-Dalmas. Nous l'appelions là-bas Pallas. Chapitre 6. Nina et Pallas. Raoul de Saint-Dalmas. L'assassinat du banquier Reynaud. Le vol du collier de perles. On devine l'effet foudroyant d'une telle lettre sur les deux personnages. Mais évidemment, c'est lui. Comment ne l'ai-je pas reconnu tout de suite? S'exclama la danseuse. Nina ne parvenait pas à comprendre qu'elle n'eût pas identifié immédiatement ce visage, qui, chaque fois qu'elle le rencontrait, attirait, retenait son attention, et la tourmentait comme un problème obscur dont elle cherchait au fond de sa mémoire fragile les données mystérieuses. Raoul, c'était Raoul, cet héroïque officier de la Grande Guerre, ce Didier Daumont qui était venu se mettre si singulièrement entre eux et leurs ténébreux projets relatifs à la famille de la Boulet. Lui aussi, quand il la rencontrait, la regardait avec une inquiétude certaine et avec une obstination bien dangereuse s'il ne voulait point être reconnu. Que pouvaient être ses projets pour qu'il osât ainsi s'approcher d'elle dans un moment où tout lui commandait la retraite et le silence ? « Comme il a changé !» murmura-t-elle. « Il est plus vieux de 20 ans. » Et le bagne ne rajeunit pas son homme, ricanait Gorbio. Si Nina était stupéfaite de l'événement, Gorbio, lui, en était triomphant. Une joie féroce lui gonflait le cœur. Il y avait tant de choses entre Raoul de Saint-Dalmas et lui. Il y avait d'abord que c'était lui, Gorbio, qui allait assassiner le banquier Reynaud. Il y avait que c'était lui qui avait volé le collier de perles pour le donner à Nina. Le collier de la reine de Carinthie. Nina le portait. Elle n'avait osé le porter, du reste, qu'au bout de plusieurs années. Certes, la perle défectueuse qui eût pu le faire reconnaître à première vue avait disparu et la monture avait été changée. Et puis, qui pensait encore à cette vieille histoire ? Eh bien, il y avait un homme qui devait y penser toujours, et cet homme, que l'on croyait au bagne, s'asseyait maintenant à ses côtés dans les fêtes publiques. Le collier. Gorbio et Nina le regardaient maintenant tous deux, et soudain, sans qu'un mot eût été prononcé entre eux, ils eurent le même geste. Ils le détachèrent de ses admirables épaules. Et Nina, ouvrant un meuble sûr, y prit un coffret dans lequel elle déposa le bijou. Puis la porte du meuble fut refermée. Et encore, Gorbio eut un ricanement de triomphe qui avait fait tressaillir la danseuse. « Comme tu ris ! Tu es donc si content que cela, qu'il soit ici, cet homme ?»« Si je suis content, regarde-moi ! Mais regarde-moi donc, Nina ! Est-ce que tu ne vois pas que j'étouffe de bonheur ?» Didier d'Aumont, un bagnard. Oui, oui, je comprends. Avec un pareil secret, tu le tiens. Il t'appartient.
Tu ne comprends rien du tout, éclata Gorbio.
Il ne m'appartient pas, il appartient au bagne. Comprends-tu maintenant? Comprends-tu que je vais renvoyer au bagne Didier d'Aumont, le mari de mademoiselle de la Boulet?
Tu es terrible.
« Je suis ton élève. Tu trouves qu'il n'a pas assez souffert ?
Jamais.
Tu vas me faire croire que tu aimais Françoise.
Françoise, je m'en fous.
Mais lui, il m'a humiliée, écrasée, fait jeter à la porte. As-tu oublié qu'il a failli me tuer ?
Mon Stanny, je crois que tu as aimé Françoise. »
Gorbio eut un geste tragique.
« Mais tu sais bien que je n'ai jamais aimé que toi. Je te l'ai assez prouvé. »
Ils se turent. Dans leur silence montaient tant de souvenirs. D'un temps où le comte Stanislas de Gorbio n'était encore qu'un petit commis en bijouterie dans la maison de l'expert chargé de vendre les joyaux de la reine de Carinthie. Jeune et élégant, d'une élégance de bar, nécessaire à un employé qui fréquente, pour la plus grande prospérité de son négoce, les grandes demi-mondaines qui ont trop de bijoux ou les petites artistes qui n'en ont pas assez, il avait amusé tout d'abord Nina par son bagout et ensuite par son audace amoureuse, car il s'était déclaré fou d'elle. Elle n'en avait fait que rire, jusqu'au jour où, lui ayant dit « Je ne sais même pas, mon cher, ce que vous seriez capable de faire pour moi. » Il lui avait froidement sorti le bijou qu'elle avait tant convoité, le collier volé au banquier Reynaud. « Voilà ce que je suis capable de faire pour toi. » Et elle avait reçu le collier de ses mains, rouge de sang. Après un moment de stupéfaction et d'horrible admiration, elle s'était donnée à Gorbio. Ils étaient admirablement faits pour s'entendre. Nina faisait déjà partie, à cette époque, d'une organisation formidable, payée par l'étranger, et elle venait de trouver, dans Gorbio, l'homme dont elle avait besoin. Raoul venait alors d'être condamné. La danseuse l'avait laissé partir pour le bagne, sans regret, comme sans pitié. Après tant d'années, le cœur de Nina ne semblait point être devenu plus tendre. Et ce soir-là, où il venait de recevoir la lettre d'Arrigonde, elle finit par dire à Gorbio « Ma foi, tu as peut-être raison. Renvoie-le au bagne. C'est encore là qu'il nous gênera le moins. » Gorbio, songeant à sa vengeance, ne lui répondit pas. Le lendemain matin, quand il s'apprêtait à la quitter, elle lui demanda encore « Que vas-tu faire ?» Il lui répondit vaguement « Je vais réfléchir. » Et il la laissa, très distraite, très lointaine, ne songeant plus de toute évidence qu'à la revanche qu'il allait prendre. « Pauvre Raoul !» soupira Nina. « Il n'a que ce qu'il mérite. Il n'avait qu'à rester là-bas. » Cependant, l'idée que tant de joie mauvaise chez Gorbio pouvait avoir pour origine un véritable amour pour Françoise n'avait point quitté Nina. Et c'est sans doute cette imagination qui la conduisit à rouvrir le meuble, à regarder le coffret, à en faire jouer un tiroir secret ignoré de Gorbio, et dans lequel la danseuse avait glissé, depuis bien des années, la perle défectueuse qui pouvait faire reconnaître à coup sûr le collier, ainsi que quelques lettres du comte, fort imprudentes, comme il arrive à l'ordinaire aux lettres d'amour, et qui désignaient suffisamment le véritable auteur de l'assassinat du banquier Reynaud. En contemplant ces reliques, Nina eut un soupir qui en disait long sur ses projets éventuels, dans le cas où Gorbio cesserait de lui être un instant fidèle. Puis elle rangea hâtivement son petit trésor, car on frappait à la porte. La soubrette annonçait un visiteur. « À cette heure-ci ?» Il était 10 heures du matin et Nina venait à peine de sauter du lit. Le visiteur avait insisté tout particulièrement, disant que l'affaire était d'importance. Nina lisait la carte qui lui était tendue. Elle ne put retenir une exclamation. « Ah, par exemple !» C'était Didier Daumont. Didier Daumont venait chez elle? Il osait cela? Il se croyait donc bien sûr de n'être point reconnu. « Ou il est fou, se dit-elle, ou il m'aime toujours. » Ce fut à cette dernière hypothèse qu'elle s'arrêta. Il plaît toujours à une femme d'expliquer l'inexplicable par le sentiment excessif qu'inspire son charme et sa beauté. Elle imagina tout de suite que Raoul de Saint-Dalmas ne s'était échappé du bagne que pour retrouver quelques minutes de plaisir dans ses bras, et qu'il préférait le risque de retourner à Cayenne au supplice d'être privé plus longtemps de ses fantaisies amoureuses. Ce n'était point la fadeur d'une lune de miel avec la fille de Monsieur de la Boulay qui pouvait avoir fait oublier à Raoul les heures diaboliques de leur cruel amour. Il avait suffi qu'elle rencontrât une fois le pauvre homme pour qu'il redevînt son esclave, quoi qu'il lui en dût coûter. Ainsi, sa pensée amoureuse agitait la danseuse pour la plus grande satisfaction de son orgueil. Et aussitôt, elle courut aux armes. C'est-à-dire qu'elle se fit rapidement, mais sûrement, les lèvres et les yeux en grande coquette et s'enveloppa aussi peu que possible dans les plis d'un kimono brodé de fleurs, d'où sortaient ses bras nus et parfumés. Après un dernier coup d'œil à la glace, elle passa dans son boudoir et dit à la soubrette « Faites entrer !» Et elle attendit, étonnée de sentir son cœur battre à coups précipités. Elle aurait aimé cet homme qui allait venir, qu'elle n'eût pas été plus émue. Depuis qu'il avait été si facilement reconnu par Madame Martens, Pallas était agité par les plus sombres pressentiments. Trop d'ennemis et trop de souvenirs l'assiégeaient. Il sentait bien que, quoi qu'il fît, la vérité allait éclater un de ces jours. D'abord, il s'attendait à voir réapparaître les sombres silhouettes du Parisien et de ses acolytes. Une seule chose pouvait le sauver, lui rendre l'honneur, lui permettre de redresser le front devant Françoise, la preuve de son innocence dans l'affaire du collier. Si sa liberté d'action lui était gardée quelques semaines encore, quelques jours, quelques heures, C'est à cela qu'il devait travailler, trouver la preuve. Et dans tous ses malheurs, la Providence semblait lui avoir réservé une chance inouïe. Il ne pouvait en douter. Du moins, il espérait ne plus devoir longtemps en douter. Le collier, il l'avait revu, revu sur les épaules de Nina. Nina! Et depuis qu'il l'avait revu, il ne pensait qu'à lui. C'était, à s'y méprendre, les mêmes perles, car il les reconnaissait, et les avait admirées autrefois avec Reynaud, avant la vente. Et le soir fatal, il les avait eues dans la main. Qu'importe qu'il y manquât l'une d'elles, celle dont Reynaud lui avait montré les défauts. L'absence de celle-ci était une preuve de plus. On avait fait perdre ainsi au collier sa dangereuse originalité. D'où Nina tenait-elle le collier? L'avait-elle depuis longtemps? Il fallait savoir. Savoir. Et ses pas le conduisaient, malgré lui, dans cette avenue où Nina Noah venait de louer une villa pour la saison. Comment savait-il cela? Parce que, depuis qu'il avait vu le collier sur les épaules de Nina, rien de ce qu'elle faisait ne lui était indifférent. Et il se trouvait maintenant sous les fenêtres de la villa. Il y avait là quelques arbres, un petit jardin ouvert à tous, derrière quelques balustres de marbre. Il s'en approcha encore, il était devant la porte. Ah, savoir, savoir! Oui, mais si elle te reconnaît! Eh bien, si elle me reconnaît, qui me dit qu'elle ne m'aidera pas à prouver mon innocence? Et il sonna. Il eut affaire tout de suite à une soubrette, mise comme une femme de chambre de théâtre, qui le dévisageait avec une curiosité effrontée et qu'il ne regarda même pas. Il ne savait pas beaucoup ce qu'il disait. Il insistait pour voir l'artiste, disant que c'était très important et très pressé. Et il donnait sa carte. On le fit monter au premier étage et on le laissa seul. La petite soubrette revint. « Madame vous attend !» Et quand il fut entré, la petite soubrette resta derrière la porte à écouter. Pallas s'avança, très troublé, reconnaissant le parfum d'autrefois, avant même qu'il eût aperçu Nina sur sa chaise longue. Un geste de celle-ci lui disait de s'approcher. Il vint à elle, machinalement. Elle lui eut montré tout de suite la porte pour qu'il s'en allât, il se fût enfui. Elle lui montrait un fauteuil, il s'assit. L'horrible passé ressuscité le rendait plus faible qu'un enfant. Il avait peur maintenant, peur de cette femme qui l'avait tant fait souffrir. Comment était-il venu jusque-là? Par quel coup de folie se trouvait-il là? Ah oui, le collier. Il regarda les épaules de cette femme, le collier n'y était plus. Et ce fut elle qui rompit la première le silence. « Vous avez désiré me parler, monsieur Daumont ?»« Ah, quelle douceur inattendue dans cette voix !» Elle lui parlait si rudement jadis quand elle le chassait, et même quand elle acceptait qu'il restât là. Il la regarda. Elle était souriante, accueillante. Certainement elle ne l'avait pas reconnue, et elle paraissait pleine de bonne volonté. Il se rappela soudain des phrases qu'il avait préparées quelques heures auparavant pour le cas où il se déciderait à y aller. « Madame, commença-t-il, il s'agit encore d'une fête de charité. Encore ? On ne peut donc se passer de moi ?» Ces dernières paroles avaient été prononcées avec une intention si évidente et pouvaient vouloir dire tant de choses que Pallas en fut un instant tout troublé. Y avait-il seulement la redoutable coquetterie de la courtisane dans cette phrase audacieuse, ou fallait-il y découvrir un sens plus terrible? L'avait-elle, oui ou non, reconnue? Il eût juré que non, tout à l'heure. Maintenant, il ne savait plus. En tout cas, Nina ne lui paraissait pas hostile, bien au contraire. Il eut l'occasion de s'apercevoir qu'elle se mettait en frais pour lui plaire. Elle avait redressé son buste, elle se penchait vers lui dans une attitude pleine d'abandon, elle lui souriait, elle lui demandait « Et que puis-je faire encore pour être charitable ?»« Mais tout simplement vous montrer, madame, comme vous l'avez fait à Valrose, et danser pour notre joie et nos pauvres poilus. Ne changez rien à votre programme. Venez avec les mêmes costumes, les mêmes bijoux. » Sa voix avait tremblé sur les derniers mots. Quant à Nina, elle était trop avertie pour ne pas attacher à ces syllabes une importance considérable. Elle leva les yeux sur ce visage, tout à l'heure encore si mystérieux, et dont l'émoi actuel ne parvenait pas à se dissimuler. Elle répéta, avec une apparente indifférence, « Les mêmes bijoux? Vous tenez aussi à mes bijoux ?»«
Nullement, » répliqua Pallas, « mais vous en avez de si beaux qu'ils vous font plus rayonnante encore, si possible. J'étais l'autre jour à Valrose avec un ami qui se connaît en belles perles et qui les aimait, et qui en a la folie. Il m'affirmait qu'il avait rarement vu quelque chose d'aussi parfait que votre collier. »
Elle s'étendit à nouveau sur la chaise longue et son visage fut dans l'ombre. Pallas, heureusement ou malheureusement pour lui, n'en put voir la férocité. Dans ce moment, Nina haïssait assez son ancien ami pour le tuer sur le champ si elle en avait eu la possibilité, sans crainte du danger ou du scandale. Ainsi, il était venu du bagne jusqu'à elle, non point, comme elle l'avait trop vite supposé, poussé par le souvenir ardent de leurs anciennes amours, mais pour lui poser des questions sur le collier. Évidemment, il avait dû le reconnaître, ou tout au moins avait-il de forts soupçons. Dans tous les cas, il venait d'agir avec une maladresse qu'elle se jurait de lui faire payer cher. « À propos de mon collier, » fit-elle avec une tranquillité glaciale, « il faut que je vous dise qu'ayant eu besoin d'argent, je l'ai vendu. » « Peut-on savoir à qui ? » questionna Pallas. « Je suis sûre que mon ami lui payait très cher. »«
Votre ami ou vous ?»
interrogea sur un ton net et brutal la terrible femme. Et comme Pallas ne savait que répondre, tout désemparé par cette attaque directe,
« Avouez donc, »
ajouta-t-elle en se levant, « avouez donc, cher monsieur d'Aumont, que vous eussiez désiré faire un beau cadeau à votre jeune femme. » Il s'était levé, et il comprenait qu'on ne désirait point qu'il prolongeât sa visite. Du reste, il ne savait plus beaucoup où il en était, et puis il lui était insupportable d'entendre cette comédienne lui parler de sa femme. Nina perçut encore cela, ce qui l'incita naturellement à continuer. « Savez-vous bien que Madame d'Aumont est très jolie ? Tous mes compliments. » Il prit congé hâtivement, sentant qu'il était prêt à commettre quelques sottises irréparables. Cependant, il eut encore la force de dire qu'il reviendrait pour traiter définitivement de la fête de charité. Il se retrouva dehors sans savoir comment, après s'être heurté au docteur Ross qui entrait et avoir bousculé la soubrette qui leur ouvrait la porte à tous deux. Il allait, se répétant, « Elle m'a reconnu, elle m'a reconnu. » Mais, au fond, il n'en était pas si sûr que cela, car enfin, si elle l'avait reconnu, il n'y avait aucune raison pour qu'elle ne l'eût point confondu irrémédiablement. Elle lui eût jeté son vrai nom à la figure tout de suite. C'était une femme qui n'avait peur de rien. Et puis, qu'avait-elle à redouter, surtout de lui? 10 minutes plus tard, il était sûr, absolument sûr, qu'elle ne l'avait point reconnu. Le docteur Ross avait trouvé Nina Noah dans un état d'énervement et de fièvre qui fut pour lui l'occasion d'une de ces ordonnances dont il avait le privilège et le secret. Ces ordonnances-là, jamais on ne les présentait aux pharmaciens, pour lesquels ils professaient, ainsi que pour toute leur pharmacopée, le plus absolu mépris. Du reste, il avait toujours les drogues nécessaires sur lui, de certaines poudres auxquelles le malade ne résistait pas, soit qu'il fût guéri, soit qu'il en mourût sur l'heure. Les décès, néanmoins, avaient été assez rares dans sa clientèle depuis qu'il exerçait sur la Côte d'Azur, et nous savons que Nina Noah avait plus que de la confiance en lui.
« Ah, docteur, je ne sais ce que j'ai aujourd'hui. Je suis nerveuse,
tenez, je viens de recevoir la visite d'un homme charmant, monsieur Didier Daumont. Eh bien, j'ai été on ne peut plus désagréable avec lui, sans aucune raison. Je dis sans raison, parce qu'il venait demander mon concours pour une fête de charité.
Qui ? Monsieur Daumont ?
Demanda avec son flegme habituel le docteur Ross. Nina dut lui dire tout ce qu'elle savait du mariage du capitaine avec mademoiselle de Laboulaye et de son duel avec le comte de Gorbio.
« Qui, mademoiselle de Laboulaye ?
Qui, Gorbio ?» Prétextant qu'il ignorait tout des choses de l'Europe et des gens de France, ce singulier docteur ne cessait de poser des questions avec une insistance et quelquefois une naïveté qui étonnait, amusait ou agaçait ses belles clientes.
« Il s'instruit, » disait Nina, qui était la première à lui pardonner son indiscrétion.
À part cela, c'était sous des dehors froids le meilleur garçon du monde, toujours prêt à rendre service. N'était-ce pas lui qui avait déniché pour Nina cette charmante petite soubrette, maligne comme un singe, qui était Zoé, et dont le zèle prime sautier et infatigable enchantait la danseuse? Sans doute mademoiselle Zoé tenait-elle, de son côté, à remercier le docteur Ross qui lui avait procuré une si bonne place, car en reconduisant le médecin américain, elle le retint sur le seuil par un bavardage que l'autre écouta avec une patience parfaite et un intérêt complaisant. Zoé aimait déjà sa maîtresse. Elle venait s'enquérir de sa santé. Elle dit tout haut, « Madame se fatigue trop. Elle travaille tous les matins. Elle répète tous les après-midi. Ainsi, aujourd'hui, bien qu'elle soit souffrante, elle ne manquera pour rien au monde sa répétition de 4 heures à l'aile d'eau. » Le docteur Ross hocha la tête, assujettit ses lunettes et s'en alla de cette allure compassée et guindée qu'il prenait sans doute pour de la distinction européenne. C'était un être tout à fait original que ce docteur Ross. D'abord, il ne soignait que ceux qui lui plaisaient. Et encore, quand il était en train, prétendait Nina, laquelle entretenait volontiers et ses amis des petites manies de son peau rouge, comme elle l'appelait. Elle ne croyait pas si bien dire. Elle citait des cas où il avait refusé de se déranger, bien qu'on lui promît des sommes considérables. En revanche, on le savait pitoyable aux pauvres, et ce n'était un secret pour personne qu'il allait assez souvent faire sa tournée dans les plus humbles cabanes de la côte. Les pêcheurs de Villefranche, en particulier, s'honoraient de sa visite, et il n'était point jusqu'à un certain Silvio, dont la jambe, à la suite de quelque accident, se trouvait dans un fâcheux état, qui n'eût à le remercier de ses bontés. Ce matin même, c'est encore la porte de la cabane du pauvre pêcheur, accroupi entre deux rochers, que poussa la main bienfaisante du chirurgien de Chicago. Il y a, entre ces murs humides, dans cette pièce sombre et basse, une grande désolation. D'abord, ce sont les soupirs de la ficelle qui pleure sa propre mort, laquelle l'attache à ces lieux obscurs et sans joie, loin du sourire de Zoé. Il a pu lire dans les feuilles que le chauffeur de M. de Saint-Yne s'est noyé avec son maître dans cette malheureuse promenade qui devait se terminer par une si terrible catastrophe.
« Monsieur Hilaire, grogna Chéri Bibi, vos plaisanteries ne cesseront donc jamais. J'ai connu un temps où le seul fait de vous trouver à mes côtés eût suffi à votre bonheur.
Certes, monsieur le marquis, pardon, mon cher monsieur Silvio.
Vous ne manquerez de rien ici, reprit Chéri Bibi, et vous ne risquez point d'y rencontrer une épouse acariâtre.
Évidemment, évidemment.
Eh bien, faites-moi donc le plaisir, la ficelle, mon ami, de me laisser guérir tranquillement de cet accident stupide qui m'enchaîne à ce grabat comme Prométhée à son rocher.
Nous avons appris dans un ouvrage précédent que monsieur le marquis du T, alias Chéri Bibi, avait, pendant une des plus intéressantes périodes de sa vie, fréquenté les belles lettres. Et Chéri Bibi se remettait à geindre pour son compte. Au fait, jamais le titan, accablé sous les liens ingénieux que la main des dieux avait forgés pour lui, ne grogna plus épouvantablement que le protecteur redoutable de Pallas, réduit à garder un grabat à cause d'une méchante foulure qui n'avait fait que s'enflammer depuis, que, malgré l'avis de son médecin, il avait voulu aussitôt se remettre au travail, pour une besogne de justice et d'enfer dont M. Hilaire avait encore le frisson. La porte s'ouvrit donc devant ce bon docteur Ross, qui se mit immédiatement à son travail salutaire avec ses onguents spéciaux et ses cataplasmes. Chéribibi, soulagé, daigna lui exprimer, entre deux grognements, quelques reconnaissances, après quoi il lui demanda s'il y avait du nouveau du côté de la Nina Noah. Cette Nina Noah n'avait cessé, depuis le retour de Chéribibi en Europe, de préoccuper celui-ci. Tout ce qu'il savait d'elle et tout ce que Pallas, pendant ses années de bagne, lui en avait appris, l'avait toujours incité à penser qu'elle n'était point étrangère au malheur judiciaire de Raoul de Saint-Dalmas et qu'elle devait en savoir long sur la mort du banquier Raynaud. Chéribibi avait, lui aussi, remarqué plusieurs fois le collier que portait la danseuse, et quand son enquête autour de Nina Noah lui eut appris les rapports de l'ancienne amie de Pallas avec Gorbio, chose qu'ignorait encore Pallas, il n'avait pas hésité à diriger sur elle le docteur Ross d'abord, puis à placer auprès de Nina cette petite Zoé, chargée de lui rapporter tout ce qui se passait et se disait dans la maison. Pourquoi Zoé? Parce que Zoé parlait l'italien, et que le comte et Nina, entre eux, s'entretenaient souvent dans cette langue. Ce que Zoé, ce matin-là, avait entendu, vu et compris, était d'importance. Aussi le docteur Ross eut-il un certain succès quand il eut répété ce que lui avait dit la soubrette d'occasion. Chéribibi ne s'était donc pas trompé. C'était bien là le collier volé au banquier, et l'assassin de Raynaud, d'après la conversation surprise, ne pouvait être que Gorbio. Or, la preuve de tout cela était enfermée dans un meuble chez Nina. Chéribibi eut un rugissement de triomphe et sauta de son grabat. Hélas, il y retomba aussitôt avec un gémissement de rage et de douleur. Chapitre 7. Éclaircie. Nous avons laissé M. Daumont au plus fort de ses réflexions. « Je ne me reconnaissais pas moi-même après 6 mois de bagne. Alors ?» Alors, il n'y avait qu'un souvenir fidèle et douloureux comme celui de Madame Martins que le remords d'une honnête femme pour retrouver sous le masque présent le visage du passé. Il en était là de ses raisonnements quand, débouchant sur le quai du Midi, il se trouva justement en face de Madame Martins. De qui celle-ci lui aurait-elle parlé, sinon de Gisèle? Depuis qu'elle avait entrevu la radieuse enfant dans le salon de la Villa Thalassa, Madame Martins ne pensait plus qu'à sa fille et cherchait toutes les occasions de la rencontrer et de lui parler. Les sœurs Violette avaient trouvé dans la femme de l'avocat général une cliente qui ne quittait plus leur atelier. À 7 heures du déjeuner, Gisèle était de retour chez elle, dans ce nouvel appartement en plein midi que lui avait procuré l'attentive bonté de M. Daumont. Madame Martins n'eut aucune peine à décider celui-ci à l'emmener avec lui dans la visite qu'il se proposait de faire à sa petite protégée. Le temps était radieux, l'abbé des Anges recourbait sa faucille d'éblouissant azur devant cette grève qui fait suite à la promenade des Anglais et remonte jusqu'au rocher du château. En cet endroit, plus de palaces, plus d'hôtels magnifiques, de villas somptueuses, mais une quantité de petits appartements ensoleillés, aux balcons fleuris, abritant de modestes ménages, dont la plus grande richesse est certainement cette splendide lumière du jour dont ils jouissent, de l'aurore au crépuscule. Sur le galet, les barques des pêcheurs ont été tirées, les filets sèchent sur les dalles du port. Deux petits restaurants ont sorti devant leurs fenêtres des tables aux nappes éclatantes, bientôt surchargées des plats de coquillages réclamés par les amateurs. Quelques douzaines d'huîtres fraîches, arrosées d'une bouteille de belay, tentent les moins gourmands dans ce décor enchanteur. Mais Didier Daumont et Madame Martins n'eurent d'attention que pour la plus douce des apparitions, surgie entre les branches embaumées d'un de ces petits jardins suspendus au proche balcon. C'est Gisèle qui sourit à la lumière bienfaitrice, en poussant avec sa grâce coutumière le fauteuil où celle qui lui a servi de mère renaît à l'espoir de la vie. À cette vue, Pallas ne sent plus, pendant quelques instants, la formidable angoisse qui nuit et jour torture son âme. Et Madame Martin s'oublie tous ses remords devant le fruit adorable d'une faute qu'elle a tant pleurée. Ni l'un ni l'autre ne saisissent autre chose que ses cheveux d'aurore encadrant le sourire du printemps. Comment s'apercevraient-ils qu'ils ne sont pas les seuls à voir cela et l'apprécier? En quoi, du reste, pourrait les intéresser cette silhouette inconnue, à demi dissimulée dans l'ombre de la tente du restaurant en plein air? Encore quelque amateur de coquillages, qui a bien le droit, en vérité, d'oublier ses huîtres un instant, pour goûter le charme d'un joli visage penché sur un balcon. Déjà, Pallas et Madame Martins ont pénétré dans la maison. Gisèle ne les a pas aperçus. Un petit garçon passait en courant, vendant des journaux locaux et annonçant un terrible accident au Cap Ferrat. Gisèle, inquiète tout de suite, avait jeté une pièce et descendu, comme il est d'usage là-bas, un petit panier au bout d'une pièce. Le camelot y avait déposé sa marchandise. Et tout à coup, « Maman, c'est monsieur de Saint-Yne, cet affreux homme qui me poursuivait, qui est mort avec deux de ses amis et domestiques. Un accident en rade de Villefranche. Les pauvres gens !» Mais mademoiselle Athénaïs n'était point disposée à pleurer la mort du persécuteur de son enfant, et elle déclara avec une conviction touchante que c'était le ciel qui l'avait puni. La naïve cruauté de cette dernière phrase ne dut point passer inaperçu du mangeur d'huîtres, car son ombre parut en recevoir quelque agrément. Gisèle avait encore le journal à la main quand Pallas et Madame Martins firent leur entrée dans l'appartement. La première chose que fit la jeune fille fut de tendre le journal à son bienfaiteur. D'abord, Pallas ne dit rien. Le coup était trop fort, sa joie intime trop immense. La Providence, après l'avoir accablé si longtemps, se mettait soudain si formidablement de son côté qu'il en était comme assommé. Car il n'y avait pas de doute possible, à la description des personnages qui accompagnaient Saint-Yne dans l'auto, Pallas reconnaissait qu'il était à jamais débarrassé de ses farouches ennemis. Le simple fait divers, un banal accident, le faisait ressortir de l'abîme où il avait été à nouveau plongé. Pour lui, l'aurore nouvelle se montrait, plus radieuse que jamais, à son obscur horizon. Il en était ébloui. Il eût voulu relire ces lignes libératrices. Il n'y parvenait pas. Trop de lumière dansait dans ses prunelles. Et c'était cet ange, sa fille, qui lui apportait une nouvelle pareille. Ah, cette fois, Dieu était enfin avec lui. Quand il put parler, il balbutia quelques hâtives excuses et s'enfuit. Il s'enfuit pour ne point étreindre cet enfant sur son cœur, pour ne point lui crier sa joie et sa délivrance. Quand il arriva sur le quai, il répétait encore, il ne pouvait s'empêcher de répéter à mi-voix, comme une litanie, « Arrigon des morts !» Et il passa presque en courant devant le mangeur d'huîtres. Celui-ci, qui avait fini de déjeuner, solda son addition, alluma un cigare et s'en fut d'un pas tranquille vers le port en murmurant « Arrigon des morts, mais pas encore enterré. » Chapitre 8. Une journée qui avait bien commencé et qui finit mal. L'après-midi de ce même jour, le comte Stanislas de Gorbio, Mon petit Stani, disait Nina dans l'intimité. S'était rendu sur la promenade des Anglais, où il comptait trouver quelques personnages de qualité, de passage à Nice, et propres à lui fournir, innocemment, quelques renseignements dont il savait toujours tirer profit. La journée était belle et les promeneurs nombreux. Ceux-ci passaient, potinant, entre les chaises où s'étaient installées les mères de famille, penchées sur leurs travaux d'aiguille ou de tricot, avec une application qui n'était interrompue que par l'apparition d'une toilette à sensation ou de visages inconnus, auxquels la curiosité des dames, toujours en éveil, cherchait immédiatement à donner des noms. Le monde est petit, c'est toujours le même qui se rencontre, l'été sur les plages du Nord, l'hiver sur celles du Midi, au printemps et à l'automne, dans les milieux mondains de la capitale et dans les allées du bois, à 11 heures et à 6 heures. Le comte de Gorbio s'était fait de nombreux amis dans ce monde-là, si tant est qu'on puisse donner le nom d'amis à tous ceux à qui l'on serre la main. Sa personnalité n'avait jamais été plus en vogue depuis le duel où le pistolet de M. Didier d'Aumont l'avait abattu. Dieu seul savait les histoires qui s'étaient chuchotées autour de cette aventure. Les fiançailles du comte avec Mademoiselle de la Boulay n'avaient été un secret pour personne, et il y avait veillé lui-même, persuadé trop tôt que l'affaire était conclue. L'échec qu'il en avait subi avait été d'autant plus retentissant. Aussi, plus que jamais, avait-il ses raisons de plastronner pour donner le change et refaire sa fortune mondaine. Il ne perdait pas une occasion de se montrer et de prouver qu'un incident même aussi cruel, un mariage raté et un duel néfaste, ne pouvait l'arrêter en chemin. Comme il passait pour très riche et disposant des plus grandes influences, on lui pardonna vite son malheur. Chacun était persuadé qu'un homme comme lui prendrait tôt sa revanche. Or, cette revanche, il la tenait. Et comment ? L'heureux rayonnement qui éclairait son visage ne passa point inaperçu. On le félicita de sa bonne mine. Ses propos étaient enjoués et son esprit redoutable. « En voilà un qui a de l'abattage !» murmurait une dame un peu mûre à sa fille en âge de se marier, et qui avait eu déjà quelques aventures de demi-vierge avec de notoires rastas. Soudain, le front de Gorbio se rembrunit, ses yeux devinrent fixes, on regarda ce qu'il regardait, et l'on aperçut Madame Didier d'Aumont qui s'avançait sur la promenade avec Madame Martins. Françoise semblait heureuse, et elle l'était en effet. Depuis la minute terrible où elle avait tout appris et où elle s'était mise à épier Pallas avec une angoisse si tragique, jamais elle ne l'avait vue comme ce jour-là, libre apparemment de tout souci et d'une aisance si naturelle qu'elle était presque inexplicable pour une personne qui, comme Françoise, avait sondé l'abîme sur lequel naviguait son mari. Celui-ci était rentré à la villa du Cap Ferrat, transformé littéralement, au moral et même au physique. Certaines rides du front que Françoise avait vues se creuser de jour en jour depuis leur arrivée à Nice s'étaient évanouies comme par enchantement. Elle n'avait pu s'empêcher de montrer son étonnement, et Pallas, devinant qu'il ne devait plus être reconnaissable depuis qu'il avait appris l'accident providentiel qui le débarrassait du Parisien et de sa bande, avait jugé bon de donner à sa femme une rapide et vague explication. « J'ai eu de graves soucis d'affaires. C'est passé, n'en parlons plus. » Joliment, elle lui avait reproché d'avoir eu l'esprit occupé par quelque autre chose que leur amour, la seule chose qui compta pour elle au monde. Et elle aussi s'était réjouie intimement, persuadée que Didier venait de faire un pas immense sur le chemin où il tentait de trouver, comme Chéri Bibi l'avait expliqué à Françoise, la preuve de son innocence dans le drame qui avait bouleversé sa vie. Cette belle journée ne lui en paraissait que plus radieuse, et Madame Martins elle-même s'étonnait de sa gaieté, qui faisait contraste avec l'expression un peu sévère et réservée qu'elle avait remarqué sur le visage de la jeune femme dans leur précédente rencontre. Françoise n'avait pas encore aperçu le comte de Gorbio. Elle ne le vit que lorsqu'elle fut tout près de lui, à la hauteur du groupe dans lequel il pérorait. Alors, son visage changea. Elle regarda droit devant elle, comme si elle n'avait point aperçu le personnage. Mais ils savaient tous deux qu'ils s'étaient vus. Et tout le monde qui assistait à cette scène le savait aussi. On avait surpris le rapide croisement de leurs regards. Quelle aubaine pour ces oisifs qu'une rencontre pareille! Qu'allait-il se passer? Car certainement il allait se passer quelque chose. Et il se passa ceci, que le comte salua Françoise. Celle-ci ne pouvait pas ne pas voir ce coup de chapeau. Françoise, qui était devenue d'abord très pâle dès qu'elle avait reconnu le comte, sentit que son visage s'embrasait. Elle hâta le pas en détournant légèrement la tête avec un mépris marqué. Elle était furieuse. Elle se mordait les lèvres. Elle dit à Madame Martens « Vous avez vu cette audace ?»«
Ça, oui, » répondit Madame Martens.
« C'est d'un insolent et d'un mufle. Il devait ne pas vous voir. »
Gorbio était resté à sa place, continuant de regarder Françoise qui s'éloignait. Un sourire terrible crispait sa lèvre. Il y avait un grand silence autour de lui. Il dit tout haut « Madame d'Aumont ne me connaît plus. Elle a tort. Elle n'a pas de meilleur ami que moi. » En rentrant à la villa Thalassa, la première chose que Françoise dit à son mari fut cette extraordinaire histoire du coup de chapeau du comte de Gorbio.
« J'espère que tu n'as pas répondu à son salut !» s'écria Pallas.
« Je suis passée près de lui comme si je ne le connaissais pas !»
Tant de méchantes hardiesses les stupéfiaient et venaient jeter une ombre sur le bonheur parfait de cette rare journée. Ils se mirent à table en pensant encore à Gorbio. Ils savaient que le comte était en pleine convalescence, mais ils étaient loin de se douter qu'il surgirait aussi vite dans leur vie. Ils étaient en droit de penser que l'ancien rival de Didier aurait le bon goût de faire tout son possible pour passer inaperçu, si le hasard les mettait tous trois sur le même chemin. Que signifiait une incorrection aussi grave à toutes les conventions mondaines? Pallas avait de graves raisons de se méfier du comte. Et plus d'une fois, chez Monsieur de la Boulaye, il avait eu l'occasion de s'étonner de certaines de ses attitudes. Sans qu'il pût formuler contre lui rien de précis, Pallas nourrissait à l'égard de Gorbio des sentiments plutôt hostiles, en dehors même de toute rivalité d'amour, mais il avait été assez honnête homme pour se méfier de ses propres impressions et pour les mettre au compte de cette rivalité même et de sa propre jalousie. Mais maintenant, il se laissait aller à son ancienne haine pour un homme qui aurait pu posséder Françoise, et qui lui apparaissait de plus en plus comme un rastaquaire de redoutable envergure. L'incident prenait à ses yeux une ampleur soudaine. Il commençait, de ce point-là, à le considérer non plus seulement comme le résultat d'un manque absolu de tact, mais, qui sait, comme une menace. Les deux époux se faisaient part de leurs réflexions et échangeaient encore des hypothèses quand un domestique entra, apportant une carte sur un plateau. Pallas lut et eut une sourde exclamation.
« Lui, c'est trop fort !»«
Qui, lui ?»
« Mais lui, Gorbio, ce n'est pas possible !»
Françoise prit la carte des mains de son mari et lut à son tour. « Le comte de Gorbio demande à voir monsieur et madame d'Aumont pour une communication urgente. »«
Mais je ne veux plus revoir ce misérable qui a voulu te tuer » s'écria-t-elle.
Le domestique attendait des ordres. « Faites entrer dans mon bureau !» commanda Pallas.
« Pourquoi le reçois-tu ?»«
Pour lui faire passer le goût de revenir, » répondit Pallas, qui s'essayait à reconquérir tout son sang-froid. Le comte, dans le bureau, attendait, sans impatience. Il jouissait de l'émoi que sa seule présence apportait dans cette maison. Il se représentait la stupéfaction et la colère des deux époux en face d'une démarche qui devait leur apparaître d'une audace incompréhensible et d'une insolence sans nom. Qu'allait-il résoudre? Il avait envisagé l'hypothèse où l'on refuserait de le recevoir. En ce cas, il aurait refusé de se retirer. Et de toute façon, une explication devenait nécessaire, fatale. Cette explication serait courte, mais foudroyante. Et à l'idée de l'effet qu'il allait produire avec une seule phrase, sa figure prenait une expression de férocité triomphante. Quand Didier Daumont parut, domptant difficilement la plus noble colère qui eût encore gonflé le cœur d'un époux outragé, il fut frappé par cette physionomie, par cette face où rayonnait une joie diabolique, et il ne put retenir plus longtemps son courroux. En quelques mots durs, prononcés d'une voix âpre, il déclara à Gorbiot qu'il trouvait sa démarche, quel qu'en fût le but ou le prétexte, d'une extrême inconvenance. À quoi Gorbiot, glacé, répondit « J'ai quelque chose de très important à dire à Madame Daumont, et il m'a semblé plus correct de le dire devant vous. » Les deux hommes étaient alors séparés par la largeur de la pièce. Gorbiot s'en vint vers Pallas, le fixant de ses yeux où flambaient toutes les joies de la vengeance. Pallas comprit que cet homme était terriblement armé contre lui et redouta le pire. Ce fut le pire, en effet, qui arriva. Gorbiot prononça « Je veux lui dire qu'elle a épousé un forçat. » Pallas recula sous le coup, mais l'autre continuait. « Une bonne nouvelle à apprendre à Madame Daumont, n'est-ce pas, Raoul de Saint-Dalmas ?» Ainsi, Gorbiot savait tout. Son secret, son horrible secret, était maintenant entre lui et cet homme. À l'heure où il se réjouissait de la disparition providentielle des quatre misérables qui le poursuivaient de leur hideuse entreprise, un nouvel ennemi surgissait. Et lequel? Celui que Françoise avait rejeté, bafoué, qu'il avait lui-même abattu par un coup inespéré et qui ressuscitait pour prendre la plus terrible, la plus effroyable revanche. Oh, misère incalculable! Non point à cause de son mauvais destin, à lui, mais de sa douleur à elle, de son désespoir et de la mort de son amour, la mort de son cœur et de son corps. Car une phrase comme celle-ci, « Vous avez épousé un forçat », ça tue. Pallas ne bougeait plus. Il semblait un cadavre debout. Devant lui, il y avait cette bouche qui continuait de cracher la haine, et l'épouvante, avec ce mot qui revenait sans cesse, « forçat ». Et tout à coup, Pallas ne put l'entendre davantage, ce mot-là. Il sauta à cette gorge, son poing puissant l'étreignit, et il soufflait à l'autre « Assez, assez, tais-toi, tais-toi !» L'autre râlait, se débattait, ruait dans les meubles renversés, et comme le mot affreux ne se faisait plus entendre, Pallas lâcha Gorbiot, se rendant compte soudain de son geste homicide. « Mais assassine-moi donc, fais ton métier !» glapit Gorbiot en se mettant toutefois prudemment à l'abri d'une nouvelle agression derrière un meuble. Et il ricana, sinistre. « Tu t'y connais, il n'y a que le premier pas qui coûte !» Ah, certes, ce premier pas n'eût guère coûté à Pallas dans la voie du crime. Si quelqu'un désira jamais tuer, ce fut bien Pallas dans cette minute terrible. Et pendant que cette atroce scène se déroulait dans le bureau, Françoise, seule dans la salle où l'avait laissé son mari, attendait, en prêtant l'oreille au moindre bruit. Didier lui avait fait promettre qu'elle ne quitterait point cette pièce, et lui avait juré qu'il serait calme et garderait son sang-froid, quoi qu'il advînt. Enfin, qu'après avoir vu le comte, il reviendrait aussitôt auprès d'elle. Or, il ne revenait pas. L'entrevue se prolongeait. L'angoisse, l'inquiétude de Françoise augmentaient de seconde en seconde. Que pouvaient se dire les deux hommes? les plus redoutables hypothèses lui embrasaient le cerveau. Françoise, cependant, ne s'arrêta point à la seule qui fut exacte, la connaissance par Gorbiot du secret de Pallas. Cette hypothèse-là était si terrible qu'elle la jugeait impossible. Elle préférait la rejeter tout de suite. Elle envisagea plutôt celle qui lui paraissait la moins à craindre. Elle savait que Gorbiot était en affaire avec Monsieur de Laboulaye. Le comte avait là un prétexte tout trouvé à cette étrange démarche. Mais encore, ce n'était qu'un prétexte. Qu'y avait-il au fond de tout cela? Eh bien, au fond de tout cela, il y avait la haine de deux hommes qui aimaient la même femme. Gorbiot et Didier se haïssaient jusqu'à la mort. Françoise l'avait bien vu lors du duel. Quel drame nouveau allait sortir de cette interminable visite! Elle frissonna. Elle entr'ouvrit la porte de la salle. Il lui semblait entendre des éclats de voix. Et puis, il y eut un grand coup sourd, comme il arrive quand un meuble tombe sur un tapis. Elle ne réfléchit plus à rien. Elle ne se souvint plus de ce qu'elle avait promis à Didier. Elle s'avança, haletante, du côté du bureau. Dans le bureau, Gorbiot disait à Pallas « Je ne quitterai point cette pièce sans avoir vu Madame Daumont. Je veux qu'elle sache tout, et qu'elle sache tout par moi. C'est moi qui mesurerai devant vous votre degré d'ignominie. » Pallas, penché sur une table, étreignait de ses poings crispés le meuble, arrêtant ainsi l'élan qui pouvait le jeter encore à cette gorge abominable pour la faire se taire à jamais. Il râla. « Non, pas ça. Tout ce que vous voudrez, mais pas elle. Que vous me fassiez souffrir, moi, je supporterai tout. Mais elle, épargnez-la. » Et il eut l'admirable lâcheté de lui souffler. « Vous l'avez aimée. » « Je vous hais encore plus que je ne l'ai aimé, » gronda Gorbiot. « Écoutez, » reprit Pallas d'une voix rude et qui cessait d'être suppliante, « je vous parle maintenant dans votre bien. Ne me poussez pas à bout. » « Je ne crains pas. Je ne crains pas un forçat. » « Encore ! Ah ! Taisez-vous, car tout à l'heure vous craignez un assassin. Gorbiot, je suis capable de vous assassiner, vous savez ?» Comme il disait cela, il entendit un bruit de pas dans le couloir. Il s'en fut à la porte, souleva le rideau, aperçut la silhouette de Françoise. Alors, il tourna vers le comte un visage d'une pâleur mortelle, revint à sa table, ouvrit un tiroir et saisit un revolver. Il allait tuer. C'était inéluctable. Il n'avait pas d'autre moyen de suspendre la vérité formidable sur cette lèvre maudite. Cependant, Gorbiot surveillait le geste de Pallas. « Ah ! » ricana-t-il. « Le revolver ! » !»« Oui, le revolver. Ma femme vient. Elle sera ici dans une seconde. Si vous dites un mot de ce qu'il ne faut pas qu'elle sache, je vous jure que je vous tue comme un chien. » Il répéta. « Je vous le jure !» Gorbiot haussa les épaules. « Vous me prenez pour un enfant ? Ma mort ne garderait point votre secret. » Si vous croyez que je n'ai pas pris toutes mes précautions, ce ne sera qu'un crime de plus, et tout à fait inutile, je vous en préviens. Si vous voulez absolument tuer quelqu'un, tuez-vous, c'est tout ce que je puis faire pour vous. » « Ce serait déjà fait si cela pouvait la sauver, » râla Pallas. Puis ils ne se dirent plus rien, ils attendirent l'entrée de Françoise. Les secondes passaient, interminables. C'est que, dans le corridor, Françoise s'était arrêtée, la main à son cœur. Elle l'étouffait. Qu'allait-elle encore voir en poussant cette porte? Quel spectacle d'horreur lui était encore réservé? Tout à l'heure, ce bruit. Était-ce le bruit d'un meuble qui tombe ou le bruit d'un corps? Puisqu'elle est venue pour savoir, encore un peu de courage. Elle regarde, elle voit. Non, il n'y a pas de mort dans la pièce. Il y a deux vivants qui se regardent avec une haine indicible. Elle entre, spectrale. Devant l'attitude de bataille des deux hommes et les regards qu'ils lui jetèrent à son entrée dans le bureau, Françoise ne douta point qu'elle fût elle-même l'objet de leur querelle et la seule cause de cette scène redoutable. toutes les autres hypothèses s'évanouirent. Elle allait savoir jusqu'où pouvait aller l'audace amoureuse du comte, mais aussi elle était prête à châtier tant d'insolence. « Vous aviez demandé à me voir, monsieur de Gorbiot ?» Avant de lui répondre, le comte se tourna vers Pallas, et alors il eut un spectacle si nouveau que son esprit, frappé par une transformation aussi brusque, envisagea avec la rapidité de l'éclair tout le parti qu'il pouvait tirer d'un plan nouveau. À la première attitude, si furieusement hostile de Pallas, avait succédé chez le malheureux une physionomie exprimant la plus terrible angoisse et une suprême supplication. Tout son être semblait crier « Ayez pitié d'elle !» Le voyant ainsi, éperdu, si complètement à sa disposition, Gorbiot se rappela ce que lui avait dit Nina Noah. « Cet homme t'appartient. Tu peux en faire tout ce que tu voudras. » Ah, certes, il le voyait bien maintenant, dans ses yeux, qu'il pouvait tout lui demander, tout exiger de lui, le traiter en esclave. N'était-ce pas une vengeance, celle-là? Et plus complète, plus cruelle que celle qui consistait à tout briser d'un mot. S'il prononçait ce mot, qu'adviendrait-il? Évidemment, tout serait fini pour Pallas, mais pour lui aussi. Tandis qu'il pouvait s'amuser longtemps avec cette petite histoire-là, et ne prononcer le mot de la fin que lorsqu'il aurait traîné sa victime dans tous les chemins utiles pour des besognes hideuses, des travaux nécessaires à ses mystérieux desseins. Sa résolution prise, Gorbiot rompit enfin l'effrayant silence qui s'était établi entre les trois personnages, et se retournant vers Françoise, « Madame, pardonnez-moi, » fit-il en s'inclinant et sans dissimuler un sourire cynique et sournoisement triomphant. « Pardonnez-moi si j'ai eu l'audace de venir vous troubler dans cette heureuse retraite, mais une affaire dans laquelle nous avons des intérêts communs... Je sais, monsieur, que vous avez été en affaire avec mon père. » « Nous sommes toujours en affaire, madame. Les engagements commerciaux ne se rompent heureusement pas avec la même facilité que... » Pallas ne lui laissa pas le temps d'achever sa phrase. Il était allé à Françoise et il la reconduisait à la porte, cependant que d'une voix suppliante il lui disait « Laisse-moi régler avec monsieur de Gorbiot les intérêts de cette affaire sans importance. » « Mais monsieur de Gorbiot n'a qu'à s'adresser à mon père, » fit-elle tremblante. « Je t'en prie, » murmura Pallas, « tu m'avais promis de ne pas venir. » « Je t'attends dans le salon à côté. Chasse-le. » « Ce serait déjà fait si tu n'étais venue. » Elle consentit à attendre la fin de l'entretien dans une pièce adjacente. Son impatience se doublait de l'incompréhension où la laissait l'événement. Pourquoi Gorbiot restait-il? Qu'avait-il encore à dire? Et pourquoi son mari prenait-il tant de précautions après avoir montré tant de colère? Autant de questions qui restaient sans réponse et qui la laissaient dans un désarroi absolu. Elle ne comprenait bien qu'une chose, c'est que si elle était restée entre ces deux hommes une seconde de plus, il se serait passé quelque chose d'irréparable. Et maintenant, elle attendait que Gorbiot voulût bien s'en aller. Pallas, la porte refermée, était retournée auprès du comte. Fou de honte, il lui demanda sans le regarder, « Que voulez-vous de moi ?»« Hein ?» ricana Gorbiot. « Beaucoup de choses. Vous comprendrez, mon cher monsieur d'Aumont, que j'ai besoin d'y réfléchir. Ne me poussez pas au désespoir. Mais non, je ne suis pas un méchant homme, moi. Je vous l'ai prouvé tout à l'heure. Vous m'avez fait pitié, littéralement. Et devant votre pauvre misère, j'ai oublié tant de raisons que j'avais de vous en vouloir. Vous verrez que nous finirons par faire une paire d'amis. Je ne crois pas à votre pitié. Dites-moi ce que vous voulez de moi pour qu'elle ne sache pas, pour qu'elle ne sache jamais. » Le comte regarda Pallas et se félicita déjà de la résolution qu'il avait prise de goûter une vengeance patiente et froide. Cela ne faisait que commencer, et vraiment, c'était un plaisir des dieux. Ah, que le menaçant Daumont de tout à l'heure était loin.
Il lui répondit, « Je vous le dirai bientôt. Au revoir, monsieur Daumont. »
Il partit, laissant l'autre accablé, étourdi du coup qu'il lui avait porté, et aussi de tous ceux dont son silence le menaçait.
Françoise vit passer Gorbiot avec son sourire insolent. Dès qu'il fut hors de la villa, elle courut à Palace, qu'elle retrouva dans le bureau, et qu'elle surprit avec une figure terriblement ravagée.
« Tu vas me dire ce qui s'est passé entre vous. J'ai entendu un bruit de lutte. Vous vous êtes battue ?»«
Tu as bien fait de venir, ma petite Françoise. Cela nous a rendu quelque sang-froid, tous les deux. Sans toi, je l'aurais tué. Ah, je le hais bien, cet homme !»
Elle le vit frissonnant, grelottant de haine inassouvie. Elle le prit dans ses bras, une fois de plus, pour qu'il y trouvât un sûr refuge contre les maux qui ne cessaient de l'assaillir, pour qu'il y puisât sur son sein une confiance nouvelle, génératrice de la force nécessaire à la lutte contre son affreux destin. Mais cette fois, Pallas ne put que pleurer, sangloter sur son épaule, comme un enfant.